Chapitre 5. Tôt le matin, avant l'éveil de la plupart des résidents de ce bras de l'Étoile de Mer, Nicole sortit tester son fauteuil roulant. Sa rapidité et son silence l'étonnèrent. Alors qu'elle passait en trombe devant les salles de conférence du couloir long d'un kilomètre, elle se demanda quel système de propulsion contenait la boîte métallique placée sous le siège. Richard aurait adoré, et il se serait probablement empressé de tout démonter pour essayer d'en comprendre le fonctionnement. Elle croisa quelques humains sortis prendre de l'exercice et rit quand un couple s'écarta brusquement de son passage. Ils n'ont pas dû en croire leurs yeux, en voyant une vieille peau dans mon genre faire du slalom en fauteuil à roulettes. Elle effectua un brusque demi-tour, après avoir doublé un tram. Ses rares passagers en restèrent bouche bée. Elle leur sourit et les salua de la main. Elle revenait à aussi vive allure quand deux femmes sortirent d'un appartement à seulement 100 mètres. Nicole prit alors conscience du danger et ramena la manette de l'accélérateur en arrière sans cesser de rire pour autant. Elle regagnait son logement lorsqu'elle vit l'aigle au point de jonction avec l'anneau central. Elle se dirigea vers lui.
« Vous semblez vous amuser, »
dit-il.
« Oui, c'est un jouet fantastique. J'en ai presque oublié la douleur dans ma hanche. Avez-vous bien dormi ?»«
Mieux, merci. Vos médicaments m'ont vraiment soulagé. »
Il désigna un salon du côté opposé du couloir circulaire.
« Je souhaiterais m'entretenir avec vous en privé. »
Elle roula jusqu'à la rampe d'accès. Il la suivit et lui fit signe d'entrer. Une douzaine d'octopodes étaient présents. Les nouveaux venus s'isolèrent dans un coin.
« Le transporteur appareillera sous peu du point nodal, » dit l'aigle. « Dans 12 heures, il nous abordera pour embarquer des passagers. Après le déjeuner, je communiquerai la liste des résidents qui seront transférés à son bord. »
Il se tourna vers elle et la fixa droit dans les yeux.
Lorsqu'il a fallu décider de scinder les membres de votre espèce en deux groupes, j'ai su qu'il y aurait des mécontents. J'aimerais que vous m'aidiez à apaiser les esprits. »
Elle le dévisagea et crut se souvenir qu'il avait eu la même expression lorsqu'il était venu lui demander d'enregistrer un message destiné à la population de la Terre.
« Que voudriez-vous que je fasse ? Nous avons opté pour un assouplissement de nos règles. Tous les individus désignés pour embarquer à bord du transporteur devront se plier à cette décision, mais les autres pourront solliciter une révision de l'affectation qui les concerne. Quand des liens affectifs unissent deux...
Vous voulez dire que des familles seront divisées?
Cela ne concerne que quelques couples ou parents et enfants.
Seigneur, comment pouvez-vous séparer arbitrairement des gens qui ont décidé de vivre ensemble? Vous pourrez vous estimer heureux s'il n'en résulte pas une mutinerie. »
L'aigle hésita avant de répondre.
« Ce n'est pas arbitraire. Nous étudions depuis des mois le comportement de tous les résidents du Grand Hôtel. Nous tenons également compte de leur attitude dans Rama. Aucun des passagers du transporteur ne satisfait aux critères d'admission au point nodal.
Et quels sont-ils?
La faculté de vivre dans un environnement multiracial. J'en déduis que vous les jugez indésirables. Vous laissez entendre que leur sort serait fonction de leur mérite. Je parlerai plutôt de leur capacité d'adaptation. Nous pensons que les membres de chaque groupe seront plus heureux là où nous les envoyons.
même s'ils doivent renoncer à revoir un jour leurs conjoints ou leurs enfants? Je me demande parfois si vous avez compris ce qui nous motive. Les liens affectifs, pour reprendre vos propres termes, sont pour nous l'élément primordial du bonheur. Nous le savons. Nous avons longuement étudié chaque cas où des familles seront divisées et nous avons assoupli nos règles. Ces séparations, moins nombreuses que ne le laisse supposer notre discussion, sont parfaitement justifiées.
Nicole le fixa et secoua la tête.
Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Vous n'avez à aucun moment déclaré que nous serions scindés en deux groupes. Cette décision a été prise récemment. Notre intercession nous a placés dans une situation d'urgence. Et lorsque nous avons compris qu'il faudrait prendre une telle mesure, nous n'avons pas voulu troubler les esprits. Je ne vous crois pas. Vous le saviez depuis longtemps et vous ne souhaitiez pas que nous puissions soulever des objections.
Elle utilisa les commandes de son fauteuil pour effectuer un demi-tour.
« Je refuse de devenir votre complice, et je vous tiens rigueur de m'avoir compromise en me taisant la vérité. »
Elle poussa le levier de l'accélérateur et s'éloigna vers le couloir circulaire.
« Rien ne pourrait vous faire changer d'avis ?»
demanda l'aigle en la suivant. Elle s'arrêta.
« Si !» Laissez chacun de nous décider librement de son affectation.
C'est impossible, je le crains.
Alors, il ne faut pas compter sur moi,
déclara-t-elle en repartant. Nicole était de très mauvaise humeur lorsqu'elle se pencha pour composer le code d'entrée du logement sur le pavé numérique de la porte.
Patrick et ma mère sont partis à votre recherche,
lui dit Kepler.
Ils se sont inquiétés après avoir constaté que vous n'étiez pas dans le couloir.
Benji sortit de la douche, les reins ceints d'une serviette.
Bonjour, maman,
fit-il avec un large sourire avant de remarquer son expression.
Que se passe-t-il? Tu as encore mal?
Non, mon fils. « Je suis simplement contrarié par ce que je viens d'apprendre. »«
À quel sujet ?»«
Plus tard, Benji, quand tu te seras séché et habillé. »
Il l'embrassa sur le front, puis regagna le cabinet de toilette. L'angoisse qu'il avait assaillie lors de l'entretien avec l'aigle réapparut.
« Mon Dieu, n'a-t-il pas voulu me faire comprendre à mot couvert ?» que nous serions séparés de Benji.
Il avait parlé de capacité limitée. Elle se rappela le jour où, pendant leur séjour au point nodal de Sirius, son fils était venu lui demander s'il repartirait avec eux vers le système solaire. Elle n'avait pas oublié son expression de joie lorsqu'il avait appris qu'il resterait à leur côté.
Il a déjà tant souffert,
se dit-elle, en pensant à son séjour à Avalon.
L'aigle doit le savoir, s'il a vraiment étudié tous les dossiers.
Malgré ses efforts pour rester calme, l'appréhension et l'irritation l'assaillaient toujours.
J'aurais préféré mourir dans mon sommeil. Il ne s'en remettra pas. Et moi non plus.
Une larme humidifia sa joue.
Ça va, Madame Wakefield?
Demanda Kepler.
« Oui, merci, »
fit-elle en essuyant son visage du dos de la main.
« Les vieillards sont un peu trop émotifs, voilà tout. »
On frappa à la porte. Kepler alla ouvrir. Patrick et Nai entrèrent, suivis par l'aigle.
« Nous avons rencontré ton ami dans le couloir, maman, »
dit Patrick après l'avoir embrassé. « Il nous a appris que vous aviez eu un entretien. »
Nous nous inquiétions pour toi, Nai et moi.
L'aigle se dirigea vers Nicole.
Vous ne m'avez pas laissé le temps d'aborder un dernier sujet. Pourriez-vous sortir deux minutes?
Ai-je le choix?
je vous avertis que je ne changerai pas d'avis. »
Un tram bondé passa. Nicole demanda
« Qu'y a-t-il ?»«
Je voulais vous informer que les différents représentants de l'espèce des Céciles, ainsi que les aviens survivants, seront également transférés à bord du transporteur. Si vous souhaitez avoir un contact avec le Cécile et faire la même expérience que Richard, dites-moi d'abord une chose, »
fit-elle en agrippant son bras avec une force surprenante.
« Serons-nous séparés, Benji et moi ?»
L'aigle hésita quelques secondes.
« Je ne suis pas censé vous le dire, mais la réponse est non. »
Elle libéra un soupir de soulagement.
« Merci, »
fit-elle en souriant.
« Si vous désirez voir le Cécile,
oui, oui. » C'est une excellente idée. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment lui présenter mes respects. Après avoir pris mon petit déjeuner, cela va de soi.
Les robots étaient omniprésents dans le bras de l'étoile de mer, où vivaient les aviens et les Céciles. Leur communauté était logée à l'extrémité du couloir, et l'aigle répondit par des jacassements et des pépiments aux questions de l'avien qui montait la garde à l'entrée. Sitôt qu'ils eurent franchi le seuil, un mirmicha les aborda. Il s'adressa à l'aigle par des émissions d'ultrasons issues d'un petit orifice circulaire situé sous ses yeux laiteux, brun foncé. Nicole regarda avec fascination la seconde paire d'yeux du mirmicha au bout de pédoncules de 10 centimètres qui pivotait pour surveiller les alentours. Quand l'aigle eut fourni des explications, la créature à 6 pattes qui ressemblait à une fourmi géante, lorsqu'elle était immobile, s'éloigna avec la rapidité et la souplesse d'un félin.
« Ils savent qui vous êtes !»
déclara l'aigle.
« Ils sont ravis que vous soyez venus leur rendre visite.
Comment peuvent-ils me connaître ? J'en ai vu quelques-uns dans les salles communes, mais nous n'avons eu aucun contact.
Pour eux, votre mari est un dieu. Leur espèce aurait disparu sans lui, et ils ont partagé des souvenirs de vous.
C'est impossible. Il est mort il y a 16 ans.
Ils conservent tout cela dans leur mémoire collective. Chaque mirmicha sort de sa pastèque man en sachant tout ce qui se rapporte à la culture et à l'histoire de son peuple. Pendant son développement, l'embryon ne reçoit pas que des éléments nutritifs, mais aussi des informations.
Me diriez-vous qu'il bénéficie d'une éducation avant même de naître ? Et que ce savoir est stocké dans la chair des fruits dont je me nourrissais autrefois ?
Absolument. La croissance d'un fœtus humain est plus subtile et plus complexe. Vos nouveau-nés viennent au monde avec de nombreuses capacités, mais ils dépendent des adultes pour leur survie et leur découverte du monde. Les mirmichas naissent avec un bagage culturel important et donc une indépendance accrue, mais leur potentiel de développement intellectuel est ensuite limité.
Ils entendirent le cri aigu d'un mirmicha qui leur adressait des signes à 50 mètres de distance.
« Il nous appelle !»
dit l'aigle. Nicole fit avancer son fauteuil à une vitesse modérée.
Richard ne m'a jamais dit qu'il se transmettait des informations de génération en génération. Il l'ignorait. Il a reconstitué le cycle de leur métamorphose et déduit que les mirmichas communiquaient leur savoir à un réseau neural collectif. Mais il ne s'est pas douté que des données essentielles était également stocké dans les pastèques man et fourni aux embryons.
La forme finie de l'espèce a pour fonction de trier et compresser les informations, puis de les copier dans les Pastèque-Man. Le Cécile que vous allez rencontrer s'est développé à partir du fragment que Richard a apporté à New York et qui contenait autant de données qu'une centaine de cerveaux d'adultes humains.
C'est sidérant, fit-elle en secouant la tête.
Et ce n'est pas tout. Les quatre Pastèque-Man emportés par votre mari étaient-elles aussi bourrées de fichiers compressés? Toutes ont donné naissance à des Myrmichats dans le zoo des octopodes. Le réseau neural inclut également tout cela. Je présume que vous êtes impatiente de vivre une nouvelle aventure.
Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt?
Fit-elle en arrêtant son fauteuil.
J'aurais pu consacrer plus de temps.
Vous deviez au préalable rétablir des contacts avec vos semblables. Vous n'étiez pas prête.
Vous m'avez manipulée,
dit-elle sans animosité.
Je mentirais en vous affirmant le contraire,
reconnut l'aigle. Le réseau neural impressionna fortement Nicole. Deux Myrmichats les avaient guidés dans cette salle avant d'aller se placer à l'écart contre une des parois. Le Cécile occupait environ 15% de l'espace, dans l'angle droit. Il y avait au centre de la substance blanche une ouverture juste assez importante pour autoriser le passage de son fauteuil roulant. Elle s'exécutait quand l'aigle lui dit de remonter ses manches et de lever sa jupe au-dessus des genoux.
« Je présume que je dois pénétrer en lui et qu'il refermera ses filaments sur moi. »
« Oui, un Myrmichat lui a dit de vous libérer dès que vous le demanderiez. Je vous attendrai, si ça peut vous rassurer. »
Richard m'a confié qu'établir une communication digne de ce nom était interminable.
Plus maintenant, la façon d'ouvrir un dialogue avec un être humain figure parmi les informations que contenait le fragment.
Entendu,
dit-elle en passant une main dans ses cheveux.
J'y vais. Souhaitez-moi bonne chance.
Elle pénétra dans la masse cotonneuse et coupa le moteur de son siège. Moins d'une minute plus tard, la créature s'était refermée et Nicole ne pouvait même plus voir la silhouette de l'aigle à l'extérieur.
« Elle ne me fera aucun mal. »
se rassura-t-elle en sentant des centaines, puis des milliers de filaments adhérer à ses bras, à ses jambes, à son cou et à sa tête. Leur densité était plus importante autour de son crâne. Elle se souvint de la description que Richard lui avait fournie.
Les cils étaient très fins, et je ne me suis rendu compte qu'ils avaient pénétré sous ma peau que lorsque j'ai voulu en arracher un.
Un étrange ganglion attira son regard. Il était à moins d'un mètre de son visage et se rapprochait lentement. Les autres éléments du cocon se déplaçaient. Elle frissonna et finit par admettre qu'elle était au cœur d'un être vivant. Les premières images apparurent dans son esprit quelques secondes plus tard. Elle comprit immédiatement que le Cécile lisait ses souvenirs. Des scènes de son passé défilaient si rapidement que nulle émotion ne pouvait les accompagner. Elles étaient désordonnées. Un souvenir d'enfance des bois de Chilly-Mazarin, Maria, qui riait à une histoire de Max.
Nous en sommes au stade du transfert des données,
pensa-t-elle en se souvenant de l'analyse de Richard.
Cette créature copie le contenu de mon cerveau dans le sien.
Elle se demandait dans quel but lorsqu'elle vit son mari à l'intérieur d'une vaste salle. Ses parois s'ornaient d'une grande fresque. Tout s'anima et elle eut l'impression de regarder l'écran d'un téléviseur enchâssé dans son crâne. Un Myrmichat attirait l'attention de Richard sur des détails du tableau, alors que plusieurs de ses congénères s'affairait à peindre les parties inachevées. Les scènes étaient magnifiques. Elles devaient permettre à Richard de comprendre ce qu'il devait faire pour aider ce peuple à survivre. C'était un manuel de biologie, où on avait représenté les trois manifestations de l'espèce, Pastèque-Man, Mirmisha et Cécile, et les relations existant entre elles. Nicole avait l'impression de se trouver dans cette salle, et c'est pourquoi sa surprise fut si grande quand le décor changea brusquement et qu'elle vit son mari prendre congé de son guide. Ils étaient dans un souterrain, au pied de la tour brune du second habitat. Son mari emportait quatre Pastèque-Man, deux œufs d'avien et le fragment cylindrique de Cécile dans son sac à dos. Elle lut dans ses yeux sa détermination, alors qu'il quittait l'enclave des Mirmisha, condamné à l'extermination. Et elle comprit pourquoi les membres de cette espèce lui accordaient un statut de héros. Il a risqué sa vie pour les sauver de l'extinction. D'autres images emplirent son esprit. Des visions du zoo des octopodes après la germination des Pastèque-Man. Elle y prêta moins d'attention, car elle pensait toujours à Richard. J'ai refusé de m'abandonner au chagrin. J'assimilais cela à une preuve de faiblesse. Mais à présent que je te revois et que je me rappelle tout ce que nous avons vécu ensemble, j'ai conscience que tenter de t'oublier était ridicule. Pour celui qui survit à l'être aimé, les grands instants de cet amour ne sont-ils pas des sources de joie ? Une image fugace de trois êtres humains, un homme, une femme et un bébé, rompit le fil de ses pensées.
Un moment, revenez en arrière.
Mais le Cécile ne reçut pas son message. Il y avait de nouvelles scènes qu'elle regarda plus attentivement. Et elle vit le trio passer avec le gardien du zoo devant l'enclos des Mirmisha. Maria était dans les bras de sa mère. Son père, un homme brun aux tempes grisonnantes, traînait le pied.
Je ne l'ai jamais vu. Je me souviendrai de lui.
Elle assista ensuite au transfert des Mirmisha dans un autre lieu, loin du zoo et de la cité d'Émeraude, peu avant le début des bombardements. Puis il y eut une séquence qui devait se dérouler alors que les humains et les octopodes dormaient.
Si j'ai bien compris, les quatre Mirmisha sortis des pastèques de Richard se sont amalgamés peu après au Cécile et lui ont apporté tous leurs propres souvenirs.
Elle vit des images de ce qui devait être le monde d'origine des Céciles. Richard le lui avait décrit quand il s'était retrouvé à New York après son évasion. Elle avait pris la précaution de placer sa main droite sur l'accoudoir de son siège à son arrivée. Le Cécile perçut le mouvement du fauteuil roulant sitôt qu'elle enclencha la marche arrière. Il interrompit immédiatement la projection et rétracta ses filaments.